Merci beaucoup. Merci à chacun. Je suis béni, encouragé. Qui était là hier soir? Levez la main. Ok, donc une majorité, oui, l'immense majorité, 80%, était là. Et j'ai été béni et encouragé également par vos retours. J'expliquais ça ce matin à ceux qui étaient aux leaders, que bah, parfois on arrive dans un endroit et puis on vient vraiment avec le désir, le goût de pouvoir bénir, encourager les gens. Et parfois nous repartons en espérant avoir encouragé les gens, mais il y a cette réalité, nous repartons nous-mêmes bénis et encouragés à travers tous les retours, les feedbacks qu'il y a. C'est vraiment enrichissant. Alors merci pour qui vous êtes. Comme dit mon ami Eric Sellerier, merci d'exister. On est béni et encouragé. C'est tellement bon, la présence de Dieu. Je crois que la présence de Dieu est capable de faire des choses incroyables. Est-ce que vous le pensez? Et je crois que Dieu a un avenir et de l'espérance pour chacun d'entre nous. Est-ce que vous croyez ça? Alors, j'aimerais faire quelque chose. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais j'aimerais qu'on puisse le faire. Est-ce qu'on peut se lever un instant? Et j'aimerais faire une déclaration et j'aimerais que vous puissiez la répéter après moi. D'accord? Je vais dire une phrase, juste que vous puissiez la répéter avec foi et avec conviction. Seigneur Jésus, nous venons ce soir devant toi parce que nous croyons que ta parole est créatrice, qu'elle est féconde pour nous amener dans la destinée que tu as prévue. Nous désirons ce soir saisir la vie à laquelle tu nous as appelés. Alors fais ton œuvre dans nos vies. Dans le nom précieux de Jésus, nous t'avons prié, Père, et tout le monde dit amen et amen et applaudissent le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Alléluia. Vous pouvez reprendre place. Je suis et je crois que Dieu a un avenir et de l'espérance pour chacun d'entre nous. Est-ce que vous le croyez ça? Je refuse de croire que Dieu est mort quand alors qu'il est le ressuscité. Je refuse vraiment de croire que il y a, vous savez, des moments en France, je sais pas comment c'est, en Suisse, des moments on regarde ce qui prend place en Afrique, on regarde ce qui prend place aux États-Unis, au Brésil, en Argentine, et puis quand on regarde l'Europe, on se dit ah ben c'est comme si Dieu est capable de le faire ailleurs, mais il n'est pas capable de le faire chez nous. Je refuse de croire cette pensée-là, et je crois que ce que Dieu est capable de faire au Brésil, il peut le faire ici en Suisse. Et il peut le faire partout en Europe. Je crois que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, mais qu'elles se renouvellent chaque matin. Je refuse de croire que Dieu en a fini avec moi, alors que sa parole nous dit qu'il a un avenir et de l'espérance pour nos vies. Et j'aimerais ce soir vous encourager à saisir la vie à laquelle Dieu vous appelle. Est-ce que vous croyez que Dieu a une destinée pour vous? Moi, je le crois. On pourrait se poser cette question, pourquoi Dieu nous a créés? C'est une vraie question. Pourquoi Dieu nous a créés? Il y a toutes sortes de réponses sur la notion de pourquoi Dieu nous a créés. Certains vont dire, Dieu nous a créés pour être des adorateurs. Dieu nous a créés pour l'adorer. C'est pour ça que Dieu nous a créés. D'autres vont dire, Dieu nous a créés pour évangéliser. D'autres vont dire, Dieu nous a créés pour intercéder, pour prier. D'autres pour nous occuper des enfants. Il y a toutes sortes de choses pourquoi nous pouvons dire que Dieu nous a créés. Et qu'on s'entende bien, toutes ces choses sont vraies. Mais j'aimerais vous dire, et ça va être le message vraiment que Dieu a mis sur mon cœur pour vous ce soir. Avant toute chose, même si tout ça est vrai, Dieu nous a créés pour être des leaders. Vous n'êtes pas encore convaincus, mais j'espère que vous convaincre d'ici à la fin de la réunion. Combien ici sont des leaders? Levez la main. Levez la main. Il y a un petit 5%, 4%, 5%. Ne vous sentez pas orgueilleux, hein, si vous êtes leader, levez vraiment la main. Ok, on est passé à 8%, qui dit mieux. Et moi, je crois vraiment, et j'espère que d'ici la fin de cette réunion, que d'ici la fin de cet enseignement, je vais réussir à vous gagner, que vous allez tous réaliser et comprendre que nous avons tous été créés pour être des leaders. Et Dieu nous a créés pour être des leaders. Et c'est le titre de mon message ce soir, un appel au leadership biblique. Alors je sais que parfois, je ne sais pas comment c'est dans votre église, mais parfois le mot leader, c'est un peu comme un gros mot, quoi. Ah, c'est pas dans la Bible, et ce mot, etc. J'aimerais vous dire, au-delà de toutes les notions qu'on peut avoir dans la pensée séculière de ce monde, j'aimerais vraiment vous amener et de braquer un focus sur la parole de Dieu et nous montrer en quoi Dieu nous appelle à être des leaders. Et c'est bien souvent différent de la pensée séculière, afin de saisir vraiment la pensée que Dieu a pour nous. Regardez, dans la parole de Dieu, il est dit ceci dans Genèse, au chapitre 1, dans Genèse chapitre 1, littéralement, il nous est donné l'énoncé de mission de pourquoi vous avez été créés. De l'énoncé de mission de pourquoi nous avons été créés. C'est Dieu qui le dit. Ce n'est pas Patrice Martorano, c'est Dieu. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et Dieu leur dit, deux petits points, ouvrez les guillemets, voici l'énoncé de mission de pourquoi Dieu a créé l'homme. Soyez féconds. Quand on parle de fécond, ce n'est pas spécialement de faire des enfants. C'est fécond dans le sens d'être productif. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. De manière très explicite, nous voyons que Dieu a créé la terre. Il a créé tout ce qu'il y a sur la terre, les animaux, tout a été créé. Et ensuite, Dieu a créé l'homme pour être le leader de sa création. Pour être l'intendant de ce que Dieu venait de créer. Et on le voit, c'est très explicite. Dominez, soyez féconds, multipliez, remplissez, comprenez-vous, assujettissez. Et toutes ces notions-là sont des notions qui nous montrent que pourquoi Dieu nous a créés. Dieu nous a créés pour être des leaders. Et nous avons été créés pour dominer. Et alors certains... Parce que je connais les gens, je suis pasteur maintenant depuis un certain temps. Et je sais que dans la tête de plusieurs, certains vous dites, mais pasteur, ça se voit que tu ne me connais pas. Ça se voit que tu viens d'ailleurs. Hein, parce que si tu me connaissais, tu saurais que je ne suis pas un leader. Tu saurais que moi, je suis plus quelqu'un d'introverti, quelqu'un vraiment dans l'ombre, quelqu'un qui... Voilà, si vraiment tu me connaissais, pasteur, tu le saurais que ce n'est pas tout à fait ça. J'aimerais vous dire ceci et comprenez cela. Dieu ne peut pas exiger... quelque chose de quelqu'un s'il n'a pas mis en cette personne la capacité d'accomplir la chose. Ça veut dire que si Dieu te dit tu es un leader, c'est qu'il a mis en toi la capacité d'accomplir ce qu'il te demande. Et même si tu n'en as pas conscience, même si tu crois à toutes sortes de mauvaises croyances en disant non, moi je ne suis pas capable, j'aimerais te dire avec force, avec conviction, si Dieu te dit que tu as été créé pour être un leader, c'est que tu es un leader. Parce que Dieu ne peut pas exiger de vous s'il n'a pas mis en vous, il ne peut pas exiger quelque chose de vous s'il n'a pas mis en vous cette capacité. Je donne des exemples. Quand Dieu a créé les petits poissons, il les a créés avec la capacité de savoir nager. On n'a jamais vu des petits poissons rangés en file indienne comme ça, en train de nager. Et les petits poissons, où vous allez? On va à l'école de... Je fais bien le petit poisson. Hein. On va à l'école de natation. Non! Dieu a mis dans le poisson, dès sa naissance, la capacité de savoir nager. On n'a jamais vu des petits oiseaux en train de marcher comme ça. Est-ce que vous allez, les petits oiseaux, nous allons à l'école d'aviation? Non! Dieu a mis dans l'oiseau la capacité de savoir voler. On n'a jamais vu des graines aller à un séminaire de croissance de graines. Où est-ce que vous allez, les petites graines? Ben, on va à un cours de développement personnel, de croissance, etc. Non! Parce que Dieu a mis la capacité dans la graine avec, il fait pleuvoir, le soleil, etc. Et Dieu a mis cette capacité de la graine de pouvoir sortir un germe et de se développer et un jour de devenir un arbre. Comprenez-vous? Et de la même manière, Dieu a mis en vous la capacité d'être un leader. Le leadership est naturel et il est attaché à l'homme. Dieu a mis l'arbre dans la graine, le leadership est déjà en toi. Selon Dieu, vous êtes un leader, vous êtes appelé à dominer. Le problème, c'est que bien souvent, la majorité d'entre nous, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai fait lever la main, juste pour que vous ayez conscience de ça, nous avons été des suiveurs, et ça fait des générations, et ça fait des siècles et des siècles, ne va pas plus vite que moi s'il te plaît, des siècles et des siècles où nous avons été juste des suiveurs. Et on est là, on est des suiveurs, et on se transmet ça de père en fils, de génération en génération, et on a oublié le mandat que Dieu nous a donné. Et si selon la parole de Dieu, nous sommes des leaders, nous devons accepter d'être des leaders qui vont accomplir des exploits pour le roi des rois. Regarde ton voisin et dis-lui, un jour tu seras fier d'avoir été assis à côté de moi. Dis-lui, un jour tu seras fier. Tu pourras dire que tu as été assis à côté de moi. Je vais accomplir des choses. Est-ce qu'il y en a qui désirent accomplir des choses pour le royaume de Dieu? De dire, Seigneur, tu m'as mis en moi, tu as mis des dons, tu as mis des capacités, et je désire, Seigneur mon Dieu, être travaillé fort pour la gloire de ton nom. J'aimerais juste regarder un texte biblique, à une histoire biblique, à un récit, pour vous montrer l'enseignement de Jésus concernant le leadership, concernant qu'est-ce qu'un leader. Parce que souvent la notion que nous avons, c'est une notion qui est erronée et qui vient du monde séculier. Et j'aimerais vous amener cette notion, de la comprendre, de la réaliser, afin que vous puissiez et que nous puissions vraiment avoir la bonne pensée, la bonne croyance, celle qui vient du royaume de Dieu. Un jour, il y a Jésus qui est avec ses apôtres, ses 12 apôtres, et ils vont dans un endroit, dans la ville d'origine de Jacques et de Jean. Jacques et Jean sont deux apôtres qui sont des frères. Et ils arrivent dans cette ville d'origine, et puis on sait que Jacques et Jean vont aller voir leur maman. Ce que je vous dis là, c'est facilement devinable. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais je vous garantis que quand vous comprenez le contexte, ce que je vais vous raconter là, c'est très, très facilement devinable. Donc Jacques et Jean, les deux frères, lorsqu'ils vont dans leur ville d'origine, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir la famille, ils vont voir la maman. Par exemple, moi je suis sur Bordeaux, je travaille à Bordeaux, je suis pasteur à Bordeaux, et ma ville d'origine c'est vers Lyon. Et lorsque je vais dans ma ville d'origine, qu'est-ce que je fais? Je vais voir ma maman. Et qu'est-ce que ma maman fait? Elle me pose des questions. Ma maman est chrétienne, donc elle me pose des questions sur le ministère. Comment ça va, l'église, à Bordeaux, ceci, cela, et comment ça se passe? Elle demande des nouvelles. Donc, imaginez que Jacques et Jean ont été voir la maman, certainement qu'elle leur a préparé un bon petit plat, ils sont en train de manger, de discuter, puis la maman, certainement, elle prend des nouvelles, comme une bonne maman, comme vous feriez la plupart. Alors, comment ça se passe? Vous êtes parti avec Jésus, comment ça se passe, comment évoluent les choses? Et là, j'imagine Jacques et Jean en disant, « Man, on vit un truc incroyable. » Mais vraiment, c'est un truc de fou, man. C'est, tu verrais ça, les malades sont guéris. Les captifs sont délivrés. On voit la gloire de Dieu se manifester de manière juste, puissante et juste incroyable. Et là, imaginez juste un instant, il y a la maman qui est là et le contexte, c'est l'occupation des Romains. Et là, certainement que cette maman, elle est là, mais qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça va changer, tout ça? Et certainement que les enfants sont là, man. C'est quoi le but? Je vais te dire, le but, c'est qu'un jour, Jésus nous dit qu'il est venu apporter un royaume. Il y a un royaume qui vient. Et elle, certainement que tout de suite, ça clique. Wow! Donc, on va se débarrasser des Romains. Il y a un nouveau royaume qui arrive. Et qui va être le roi? Ben, le roi, c'est Jésus. C'est lui. C'est le roi du royaume. Et là, la maman, ça va vite dans sa tête. Hein. Qu'une bonne maman juive, ça va super vite dans sa tête. Donc, elle se dit, un royaume, un roi. Donc, ça veut dire qu'il y a des places de ministres à récupérer là-dedans. Et elle va dire à c'est même sûr qu'elle a parlé de ça. Elle va dire à ces gars, à ces deux garçons, est-ce que vous avez demandé une place? Est-ce que vous avez demandé des places de leader dans le nouveau royaume? Ça serait bien qu'il y en ait un qui soit assis à la droite et un autre à la gauche de Jésus. Et là, moi, j'imagine Jacques et Jean, mais man, ça va pas, non? On va pas demander un truc comme ça? Pour qui les autres vont nous prendre? Ils vont se mettre en colère, puis ça se fait pas. Et là, la maman, elle a dû dire, hé, les gars, venez avec moi. Et là, la maman, elle part, elle va voir Jésus. Et là, moi, j'imagine Jacques et Jean, ils sont très jeunes encore à ce moment-là. J'imagine Jacques et Jean, ils suivent la maman comme ça derrière. Et là, la maman arrive devant Jésus, et c'est là que commence le texte biblique. Le texte biblique dit que la maman, la mère de Jacques et de Jean, des fils de Zébédée, alla trouver Jésus et lui fit des louanges. Littéralement, c'est « elle rendit des hommages ». Elle commença à lui donner des hommages. « Oh, que tu es grand, que tu es fort, mes fils m'ont parlé, tu es incroyable, tu es extraordinaire. » Vous savez, quand je lis cette histoire, vous savez à quoi je pense? Je pense à une fable. Vous connaissez la fable de La Fontaine? Le corbeau et le renard. Maître Corbeau tenait dans son bec un fromage. Le renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Oh, que votre ramage, si votre ramage se rapporte à votre plumage, en d'autres termes, si tu chantes aussi bien que tu es beau, oh, tu dois être le phénix, tu dois être le plus beau des chantres de ce bois. » Et vous savez ce qui arrive? Le corbeau, ne se sentant plus, ouvrit un large bec, laissa tomber sa proie, son fromage, et le renard l'a récupéré. Et vous connaissez la morale de l'histoire? Sachez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Maître Jésus tenait dans ses bras le royaume de Dieu. La maman de Jacques et de Jean lui fit à peu près ce langage. Oh, que vous êtes beau, que vous êtes grand, que vous êtes fort. On ne sait pas combien de temps ça a duré, c'est juste, elle fit des hommages. Hein. Et tu es grand, tu es beau, tu es fort. Et juste regarde ton voisin, dis-lui, Jésus, ce n'est pas un corbeau, il te voit faire. Vas-y, dis-lui, Jésus, ce n'est pas un corbeau. Jésus, ce n'est pas un corbeau, il te voit arriver quand tu veux une place. Vous comprenez? Jésus, ce n'est pas un corbeau. Et Jésus a arrêté la maman. Il lui a dit, que veux-tu ? Et là, qu'est-ce qu'elle va dire ? Ben, j'aimerais que j'ai entendu parler de l'histoire du royaume, que tu es le roi. Et est-ce que dans ton royaume, un de mes fils pourrait être assis à ta droite et l'autre assis à ta gauche ? Et Jésus va lui dire, tu ne sais pas ce que tu demandes. Et là, maintenant, mettez-vous à la place des 10 autres qui voient l'histoire devant leurs yeux. Est-ce que vous seriez content de cette histoire ? Regardez ce que la Bible nous dit, c'est écrit dans Marc chapitre 10, 41 à 45. Écoutez bien, les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les leaders des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Celui qui veut être grand, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Il y avait une discussion au milieu d'eux. Qui va être le plus grand ? Qui va avoir la meilleure place ? Qui va être le plus en vue ? Parce que dans leur tête, dans la pensée séculière, dans la pensée qui était venue jusqu'à ce moment-là, il y avait cette pensée que quelqu'un de grand, quelqu'un d'impact, c'est un leader qui va dominer des gens. C'est un leader qui va avoir une position de leadership. Et certainement qu'ils étaient en train de se disputer ces places de leader. Alors d'où vient cette pensée ? On peut se poser cette question, mais comment ça se fait ? D'où vient la pensée qu'ils avaient ? Et cette pensée, en fait, elle vient du monde grec. Et vous savez qu'en francophonie, dans le monde entier, encore aujourd'hui, dans le troisième millénaire, il y a beaucoup d'influence qui vient de la philosophie grecque. Beaucoup de nos mots français viennent de la philosophie grecque, viennent du grec, et beaucoup de nos pensées viennent du grec également. Et en fait, Socrate, Platon ou Aristote, pour ne citer qu'eux, croyaient que certains types de personnes étaient nés pour être des leaders, c'est-à-dire des maîtres, et les autres étaient nés pour être des esclaves, c'est-à-dire des suiveurs. Eux-mêmes, en fait, il y avait, quand on allait les voir, et avec toute la philosophie qu'ils avaient, tous les conseils qu'ils pouvaient donner, certains étaient là, mais comment ça se fait que, pourquoi moi je suis un esclave ? Comment ça se fait que moi je suis un esclave ? Et il y avait cette pensée, écoute, ils ne savaient pas comment finalement y répondre. Et ils disaient, mais écoute, c'est comme ça, il y en a qui naissent, c'est une loterie, c'est à la naissance que ça se passe. Il y en a qui naissent pour être des maîtres, pour être des leaders, pour être des chefs, et il y en a qui naissent pour servir les leaders. Il y en a qui naissent pour être les esclaves des maîtres. Comprenez-vous ? Et Jésus arrive, et donc toute la pensée, et même le monde juif a été impacté par la philosophie grecque jusqu'à nous aujourd'hui. Jusqu'à nous aujourd'hui, et cette pensée, elle est même dans les églises de manière générale. Et avec cette pensée-là, et Jésus arrive, et vous savez ce que Jésus fait ? Il met un grand coup de pied dans la fourmilière, et il dit, il n'en sera pas ainsi parmi vous. C'est pas ça la pensée du royaume de Dieu. Dans la pensée du royaume de Dieu, il n'y a pas celui qui est le maître, et il n'y a pas les esclaves. Dans la pensée du royaume de Dieu, nous sommes tous des serviteurs. Et dans la pensée du royaume de Dieu, nous allons tous de l'avant afin d'avancer, afin de saisir ce que Dieu a prévu pour nous. En d'autres termes, si tu veux être grand, dans ma culture, tu dois devenir un serviteur. La Bible nous dit que quiconque veut être grand, quiconque c'est toi et moi. Et il n'y a pas de problème à vouloir être grand. C'est pas de la fausse humilité, c'est pas de l'orgueil. Il n'y a pas de problème à vouloir être grand dans le royaume de Dieu. Mais on doit comprendre que pour être grand dans le royaume de Dieu, ça passe par être un serviteur. Ça passe par développer ce que Dieu m'a donné. Il y a un appel, écoutez bien, à trouver son don, ce que Dieu vous a donné, et de le développer. Parfois, je discute avec des gens, je discute parfois avec des chrétiens, et là, des moments, je suis là, c'est quoi ton appel et tout, puis des moments, ils sont là, écoute, moi, je ne sais pas, c'est comme si ce n'était pas grave. J'aimerais vous dire, si tu ne sais pas pourquoi tu es né, c'est grave. Tu dois le savoir, jeûne, prie, mets-toi la face par terre, pleure, mouille le sol de tes larmes, jusqu'à ce que Dieu te dise pourquoi tu as été créé. Parce qu'au moment où tu sais pourquoi tu es né, un leader vient de naître. Tant que tu ne sais pas pourquoi tu as été créé, tu n'es qu'un suiveur. Mais quand tu sais pourquoi tu as été créé, quand tu sais l'appel de Dieu sur ta vie, d'un seul coup, il y a un leader qui vient de naître. Alors certains, vous êtes en train de vous dire, waouh, mais si on est tous des leaders, ça va être la catastrophe dans l'église. Parce que ça vient de la pensée du monde grec. Parce que ça veut dire que si je suis un leader, j'ai des esclaves, j'ai des serviteurs. Pensons à Jésus. Jésus, c'est le modèle suprême. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que Jésus dominait les hommes? Qu'est-ce que Jésus dominait? Aidez-moi, allez-y. Il dominait l'ennemi. Il dominait quoi d'autre? Les démons? La maladie? Pardon? La tempête, les éléments, vous comprenez? Jésus dominait ces choses-là. Jésus dominait les animaux. Ben, vous comprenez que la pêche miraculeuse, les gars, ils ont pêché toute la nuit et le matin, ils arrivent, ils n'ont rien pris. Et Jésus leur dit, ben, allez-y et rejetez les filets. Et là, ils jettent les filets. Et Jésus, certainement, qu'il a dû dire aux petits poissons, hey, les petits poissons dans le filet, là. Vous croyez qu'ils ont eu le choix? Ils ont tous été dans le filet. Jésus dominait les animaux. Il dominait les puissances démoniaques. Quand il y a un possédé qui est là, la Bible nous dit que Jésus va confronter ce démoniaque. Et la Bible nous dit que les démons vont sortir. Et Jésus ne leur laisse pas le choix. Et Jésus va commander à ces démons d'aller dans les cochons. Et ensuite, il va dire aux animaux, aux cochons, allez les cochons, tous dans la mer. Et les cochons vont tous aller dans la mer. On voit Jésus qui va dire à la tempête, tais-toi! Mais est-ce qu'on voit Jésus faire ce qu'il a fait avec les cochons? Est-ce qu'on le voit faire avec les hommes? Absolument pas. Jésus ne dominait pas les gens. Jésus inspirait les gens, guérissait les gens, délivrait les gens et propulsait les gens afin que les gens rentrent dans leur destinée. Et même ceux qui, entre guillemets, suivaient Jésus, lorsque Jésus cherchait des gens qui le suivent, c'était pas dans le but d'en faire des esclaves, c'était dans le but de les émanciper, de les développer afin qu'ils accomplissent l'appel pour lequel ils avaient été destinés. Comprenez-vous? Donc il y a un don en toi et ton don est de développer ce que Dieu t'a donné. Et maintenant, comprenez ceci, je rêve d'une église, moi Bordeaux, je leur prêche avec tout mon cœur et toutes mes tripes, je rêve d'une église de leaders. Je rêve qu'une église soit... Oui, il n'y a que des leaders dans l'église, mais des leaders selon le modèle biblique, c'est-à-dire pas des gens qui nous fatiguent avec leur appel. Parce qu'il y a des gens, ils ont un appel, ils te fatiguent avec. Ils peuvent te briser une église avec leur appel. Ce n'est pas pour ça que l'appel a été donné. En fait, c'est quoi la pensée? La pensée, c'est j'ai un don et je travaille, je suis le leader. De quoi tu es le leader? Tu n'es pas appelé spécialement à être... Souvent, on pense leader, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui vont nous suivre. Non, tu es le leader de ce que Dieu t'a confié. Et en toi, Dieu a mis un appel. Il a mis des dons, il a mis un potentiel qui est en toi et tu es le leader. Nous sommes tous ici, sans aucune exception, nous sommes les leaders de ce que Dieu nous a confié. Et mon job maintenant est de travailler le don que Dieu m'a donné afin d'être votre serviteur. Et plus je vais développer mon don, et plus je vais devenir votre serviteur, et plus je vais vous bénir. Imaginez une église de leaders comme ça. Il y en a, ça va être, je ne sais pas moi, ça va être de faire des bons petits plats. Ils vont travailler, ils ont un don incroyable, ils font des choses magnifiques. Combien veulent être au bénéfice de ça? Comprenez? Il y en a, ils ont un don incroyable avec les enfants. Tout de suite, ça match avec eux, ça fonctionne. Il y en a, ils ont des dons incroyables avec les ados. Il y en a, ils parlent avec les ados, ils ne peuvent pas parler avec un ado sans se prendre la tête. Et il y en a, tu as l'impression, ils parlent avec les ados, c'est waouh! Tout de suite, les ados les aiment, etc. Il y en a, ils sont doués avec leurs mains pour faire des choses incroyables, pour accueillir, pour faire toutes sortes de s'occuper des pauvres. Vous comprenez? Mais il y a cet appel. Si je comprends que j'ai un appel, et chacun ici, on a tous un appel, et le but, c'est de prendre mon appel et de vous le donner pour vous bénir. Et votre but à vous, c'est de prendre votre appel, ce que Dieu vous a donné, et de me le donner en retour, et de le donner à celui qui est à votre droite et celui qui est à votre gauche. Et imaginez une église comme ça, c'est l'église de rêve. C'est d'un seul coup, on devient tous les serviteurs les uns des autres. Moi, je prépare fort mes messages, je prie, je cherche la pensée de Dieu, je développe mon message parce que c'est mon appel et je le travaille et afin de vous le donner, afin de vous bénir et de vous encourager. Et de la même manière, vous prenez votre appel, vous travaillez fort, vous priez dessus, vous êtes inspiré par Dieu et vous le donnez à ceux qui sont autour de vous. Waouh ! Ça, c'est l'église de rêve. Ce n'est pas une église qui va se diviser. Ce n'est pas une église qui va se quereller, qui va être le chef, qui va être assis à la droite de Jésus, à la gauche de Jésus. Ça, c'est la pensée séculière. Mais dans la pensée du royaume de Dieu, c'est j'ai un don, j'ai un appel. Et si je veux être grand dans le royaume de Dieu, je dois devenir votre serviteur. Et je vais développer ce que Dieu m'a donné. Bien sûr, dans le respect de comment Dieu a fait fonctionner l'église. Mais on est tous les serviteurs les uns des autres. Jésus est le plus grand des serviteurs. Alors, il y a une semence. Excusez-moi, il y a une semence qui est en nous et nous devons la développer. Et on doit comprendre ceci, c'est que les gens ne mangent pas les graines, mais les gens mangent les fruits. Vous êtes d'accord avec ça? Si un jour vous voyez quelqu'un partir au magasin de fruits et légumes et il achète, je ne sais pas moi, un kilo de pommes et qu'il revient avec ses pommes à la maison, il coupe les pommes en deux, il sort les graines, les pépins des pommes, il prend la chair de la pomme, il jette ça à la poubelle et il mange les graines. Vous allez le trouver bizarre quand même. Non, c'est bizarre quand même. On ne mange pas les graines, on mange le fruit. Comprenez-vous? Ben, c'est exactement pareil pour nous. Nous, des moments, on est là. Excusez-moi. J'ai un chat dans la gorge, non, c'est pas... C'est un lion à ce niveau-là même. Et en tout cas, il y a cette notion de comprendre, et chacun ici, on a des graines en nous. Il y a un potentiel en nous. Mais j'aimerais vous dire, c'est pas ça qui change le monde. Hein. C'est pas mon potentiel qui change le monde. C'est pas la graine qu'il y a en toi. Vous comprenez? Parce que les gens ne sont pas intéressés par vos graines. Hein. Les gens ne sont pas intéressés par votre potentiel. Les gens sont intéressés par votre fruit. Vous comprenez? Vous n'êtes pas intéressé à ce qu'à l'intérieur de moi, il y ait une graine de prédicateur. Vous êtes intéressé à ce que je fasse un bon message et que je vous le donne. Vous comprenez? On n'est pas intéressé qu'en toi, il y ait une graine de super cuisinière. On est intéressé par tes bons petits plats. Vous comprenez? Etc, etc, etc. Comprenez-vous? Parce que les gens mangent le fruit. Et maintenant, comprenez cette pensée. Le fruit n'est jamais pour vous. Il est toujours pour les autres. On n'a jamais vu un pommier sortir ses petites pommes, et une fois qu'il a sorti ses petites pommes qui sont au bout de sa branche, on n'a jamais vu un pommier faire ça et puis oh, essayer de manger ses pommes. Jamais. Le fruit, il n'est pas pour vous. Le fruit, il n'est pas pour vous donner de la gloire. Le fruit, il est là pour nourrir les gens qui sont autour de vous afin de rendre la gloire à Dieu. Comprenez-vous? Donc, tu développes ton don, tu développes ton fruit et ton fruit va bénir les gens. Est-ce que vous avez remarqué déjà des moments qu'il y a des gens qui attirent les autres comme ça? Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils portent du fruit. Et les gens sont intéressés à manger du fruit. Donc, plus tu vas développer du fruit et plus les gens vont être attirés. Tu n'as même pas besoin de faire ta promo. Les gens sont intéressés. Moi, quand je passe devant un arbre fruitier où je vois des bons fruits, naturellement, j'y vais. L'arbre, il n'a pas besoin de me dire « Oh, je suis là !» J'y vais tout seul. Et je vais manger le fruit. Et le fruit que tu as est pour bénir les gens qui sont autour de toi. Il n'est pas pour la gloire de ton nom, il est pour la gloire de Jésus. Et je prends le don que Dieu m'a donné, je le travaille fort, je suis appelé. Tu es leader de quoi, mon frère, ma sœur? Quand je parle d'être leader, ce n'est pas être le leader de plein de gens, tu es le leader de ce que Dieu t'a confié. Et je vais le travailler, je vais le développer afin d'être un serviteur pour la gloire de Dieu, afin que je puisse bénir les gens qui sont autour de moi. Comprenez ceci, c'est ton don qui t'ouvre la voie. C'est ton don qui t'ouvre la voie. Écoutez bien le verset. Les dons d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Vous aimeriez que cette église ait un impact dans la société? Alors vous devez développer votre don. Parce que c'est votre don, le présent que vous avez à donner, qui va élargir la voie et qui va vous permettre, vous en tant que personne, mais également en tant qu'église, à avoir un impact dans la société. C'est ton don. C'est pas le fait que tu domines des gens. C'est le fait que tu développes ton don. J'ai vu tout à l'heure, je me baladais dans la librairie ici, et j'ai vu un livre d'Hélène Bonhomme, Les Fabuleuses. Je ne sais pas si vous connaissez Hélène, quelques-uns. Et Hélène est dans notre église, elle a rejoint notre église avec David il y a à peu près un an et demi. Et Hélène, elle est invitée de partout. Elle passe à la télé en France régulièrement, sur France 2, sur France 3. Elle passe à la radio, elle est chroniqueuse au magazine Le Point, qui est un magazine important en France, etc. Vraiment, elle a un impact incroyable. Littéralement, les portes s'ouvrent et elle a un impact auprès des grands. Maintenant, posons-nous la question, pourquoi Hélène est invitée sur les plateaux télé? Est-ce qu'elle, juste que vous compreniez l'histoire d'Hélène, Hélène est une maman, une jeune maman, et lorsqu'elle a eu ses premiers enfants, en fait, elle a eu de suite des jumeaux. Et après ça, elle a fait une dépression. Elle a fait une sorte de burn-out, c'était compliqué, elle a été fatiguée. Et vous savez, généralement, les contes de fées, c'est « ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants », point. Il ne vous explique pas le après, ce qui se passe. Et c'est là où c'est le moins le conte de fées. Et là, elle a connu un temps de dépression. Elle a connu un temps de découragement. Et alors qu'elle connaît ce temps de découragement, petit à petit, le Seigneur l'a restaurée. Et elle s'est mise, voilà, elle a pris conscience et compassion des mamans qui passaient par des temps difficiles. Alors, vu qu'elle est très forte à l'écriture, elle a fait des écoles pour ça, elle s'est mise à faire un blog sur Internet pour encourager les mamans. Et ce blog a tellement fonctionné, tellement plu, que ça a commencé à avoir plein de ramifications. Et puis, elle a commencé à écrire un livre, Les Fabuleuses. Et puis, c'est un livre à succès, juste incroyable. Dans la librairie, ici, je l'ai vu, juste un livre incroyable. Et maintenant, Hélène est invitée sur les plateaux télé. Pourquoi Hélène est invitée? Est-ce qu'on invite Hélène? Hélène, raconte-nous un petit peu comment tu domines ta famille un peu. Vas-y, explique-nous, Hélène. Explique-nous comment un petit peu ton mari, là, tu l'as mis d'équerre. Là. Bah, il marche comme ça. Tes enfants, purée, il n'y en a pas un qui bouge une oreille. Il file droit, les gamins. Est-ce que vous croyez que Hélène est invitée pour ça? Parce qu'elle domine les gens? Non. Hélène est invitée parce qu'elle domine son don. Et elle a tellement développé son don que maintenant, les gens veulent être bénéfices de son don. Alors, il l'invite. C'est son don qui lui ouvre la voie. Dans mon équipe pastorale, j'ai le pasteur Dan Luiten, conducteur de louanges incroyable. Dan Luiten, c'est juste magnifique, incroyable. Des moments, tu peux avoir tout un groupe, ils peuvent être 25, 30 musiciens et il n'y a pas grand-chose qui se passe. Dan arrive, ce n'est pas une blague ce que je vous dis, Dan arrive, je le vois quasiment toutes les semaines. Et mon bureau est à côté de son bureau. Et demain, il fait la louange tout seul. Il est en train de louer tout seul le Seigneur dans son bureau. Et moi, je me retrouve impacté à genoux dans mon bureau à moi. Et Dan, il est là, il prend sa guitare. Littéralement, il prend sa guitare ou il se met derrière le piano, il plaque un accord et pff, la présence de Dieu, elle descend. Vous comprenez? C'est pour ça que les gens invitent Dan Luiten. Les gens n'invitent pas Dan Luiten parce qu'il est le responsable du département musique de l'église Momentum. Et qu'il fait filer d'une main de fer tous les musiciens. Attention, hein, ils filent tous droit les musiciens. Ah, ils connaissent tous leurs partitions. Non, les gens ne savent même pas qu'il est le responsable de musique de l'église Momentum. Ils ne le savent même pas. Pourquoi les gens invitent Dan? Parce que Dan domine son don. Il travaille son don. Il développe son don. Il prie sur son don afin d'avoir onction et puissance. Et lorsqu'il fait la louange, il y a des gens qui sont touchés, les larmes coulent. Il y a des guérisons physiques qui prennent place. Il y a des choses incroyables, vous comprenez? C'est ça que les gens veulent. C'est ton don qui t'ouvre la voie. Ce n'est pas le fait de dominer sur les autres. C'est ton don qui va t'ouvrir la voie et qui va te donner d'avoir de l'impact. Dieu cache toujours l'avenir dans la chose elle-même, tout le temps. Est-ce que vous avez déjà réalisé quand vous prenez une petite graine, un pépin de pomme, admettons, ou je sais pas, une autre graine, peu importe, d'une poire, etc. Est-ce que vous avez déjà réalisé, essayez de visualiser, si vous avez de la vision, si vous avez ce côté visionnaire qui arrivait à voir les choses de l'avenir, est-ce que vous avez déjà réalisé quand vous prenez une petite graine comme ça, est-ce que vous avez déjà réalisé qu'il y a un arbre de caché à l'intérieur? Vous voyez qu'un pépin? Celui qui a de la vision, il voit dans la petite graine un arbre de plusieurs mètres de haut. Je prends un gland d'un chêne. Et est-ce que vous savez que dans le gland, il y a un arbre de plusieurs dizaines de mètres de haut qui va vivre des siècles et des siècles? Ou est-ce que tu vois qu'un gland? Tu comprends? Vous comprenez? Et il y a cette notion, Dieu cache toujours l'avenir dans la chose elle-même. Ton avenir est caché en toi. Il est en toi. Et le Seigneur juste désire que tu le développes. Que tu développes ce que Dieu t'a donné afin d'être un arbre qui va porter du fruit et qui va avoir de l'impact dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous réalisez quand vous voyez un petit enfant, un petit garçon qui court là dans les couloirs, est-ce que vous voyez juste un petit garçon turbulent qui vous fatigue ou est-ce que vous arrivez à voir dans le petit garçon un homme de Dieu incroyable qui est caché en lui? Quand tu vois une petite fille, est-ce que tu vois juste une petite fille qui pleure, qui gémit ou qui je ne sais quoi? Ou est-ce que tu arrives à voir une fabuleuse femme de Dieu à l'intérieur de cette petite fille? Qu'est-ce que tu vois? L'avenir est toujours caché dans la chose elle-même. Et ton avenir est caché en toi. C'est une graine, c'est quelque chose, un don que Dieu t'a donné. Et tu es le leader de ce que Dieu, de la création de Dieu en toi. Et tu es appelé à développer ce que Dieu t'a donné afin d'avoir un impact. Ton leadership, écoutez bien, est comme une semence. Cultive-la pour qu'elle devienne un arbre qui donne du fruit. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à payer le prix? Vous savez, je reviens à mon histoire. La maman de Jacques et de Jean. Je reviens à l'histoire. La maman de Jacques et de Jean va voir Jésus. Et elle va dire à Jésus, elle lui rendit des hommages et Jésus va lui dire, que veux-tu? Et là, ok, très bien, j'ai compris. Ce que je veux, c'est qu'il y ait mes fils qui soient à ta droite et l'autre qui soit à ta gauche. Jésus va répondre à cette femme, tu ne sais pas ce que tu demandes. Et Jésus va dire ceci, sont-ils prêts à boire la coupe? Et il faut comprendre que « sont-ils prêts à boire la coupe ?» c'est un idiome. C'est quoi un idiome ? C'est une expression qui est liée à une culture. Ça veut dire que tu peux comprendre la phrase sans comprendre ce qu'elle veut dire. Vous comprenez ? Il y a quelques temps de ça, en arrière, j'étais en Suisse. Et je me souviens, je discute avec un pasteur et il me montrait des choses qu'il avait achetées. Et je dis au pasteur, ça vous a coûté cher ? Et là, il me dit cette expression qui doit être connue de vous, je suppose. Il me dit, ça nous a coûté un saladier. Moi, le français que je suis, un saladier, ça vaut rien. C'est 2 € au marché. Vous comprenez ? Pourtant, la phrase, je l'ai compris. Ça a coûté un saladier, je la comprends, la phrase. Mais en même temps, je ne la comprends pas. C'est un idiome. Quand j'étais au Québec, j'ai vécu 3 années au Québec, et je me souviens, un jour, je rentre, c'est la première fois, tout au début, je rentre chez un Québécois. Et là, le Québécois, il est certainement pour s'amuser avec moi un petit peu, pour me taquiner, il me dit, je rentre dans la maison, et puis il me dit, tire-toi une bûche. Et là, je tire-toi une bûche. Tu vois ? Donc, tire-toi, j'ai compris la phrase du verbe tirer, donc tire-toi, amène à toi une bûche, la souche d'un arbre. Donc, je commence à chercher une souche d'arbre dans la maison. Et là, je le vois, il rigole, il me dit, non, c'est une expression québécoise, ça veut dire, prends un tabouret et viens t'asseoir. Tire-toi une bûche. Donc, vous comprenez, c'est ça un idiome. Un idiome, c'est une expression, je comprends la phrase, mais je ne peux pas la comprendre parce qu'elle est liée à une culture. Sont-ils capables de boire la coupe ? C'est un idiome. On peut comprendre la phrase et pas la comprendre. Alors pour ceux qui sont chrétiens de longue date, on arrive un petit peu à comprendre parce qu'on connaît, on sait un petit peu que Jésus va boire une coupe dans le jardin de Gethsémané et on sait que ce n'est pas agréable l'histoire. On a une image un peu où ça a l'air de faire mal ce truc. En fait, boire la coupe, c'est une expression juive qui veut dire, quand Jésus dit « sont-ils prêts à boire la coupe ?», si je devais le traduire en français courant pour que tout le monde comprenne, ça veut dire « sont-ils prêts à payer le prix de ce qu'ils demandent ?». Vous comprenez ? Sont-ils prêts à faire le sacrifice nécessaire ? Et d'ailleurs, Jacques et Jean vont dire « oui, nous sommes prêts !» Et effectivement, ils vont le payer le prix. Mais vous comprenez ? Donc, il y a cette notion, on est appelés à être des leaders, vous êtes tous appelés, moi premier, mais comprenez ceci, on n'est pas des magiciens. On a beau être des églises pentecôtisantes et charismatiques, je ne vais pas vous sortir une baguette magique et vous taper sur la tête abracadabra et c'est terminé. Il y a un prix à payer. Vous désirez développer ce que Dieu vous a donné, il y a un prix à payer pour développer votre don. En 2014, j'ai sorti mon premier livre, celui-ci. Le meilleur est devant. Ce que je vais dire là, ce n'est pas du tout prétentieux, mais c'est juste pour vous faire comprendre une vérité biblique, une vérité spirituelle. J'ai sorti ce premier livre, Le meilleur est devant vous. Il est sorti fin 2014. Durant l'année 2015, en France, dans les librairies de la CLC, c'est la plus grande chaîne de librairies chrétiennes qu'il y a en France, ce livre est devenu le livre le plus distribué de France. Des livres écrits en français, devant les Joyce Meyer, Brian Houston, etc., etc. C'est devenu le livre le plus distribué. Et suite à ça, je ne sais pas comment, parce que moi je ne le disais pas, je ne sais pas comment, il y a quelqu'un qui l'a su. Un gars un peu jaloux qui l'a su. Et qui est venu me voir et qui me dit « Ouais, ton livre, hein, il marche bien. » Et j'ai compris de la manière dont il me disait les choses que ça n'allait pas être gentil l'histoire. Et là, je le regarde, je dis « Ouais, ça va, je suis content, ça marche bien. » Et il me dit « Ouais, c'est normal, hein, c'est facile pour toi. » Et là, je le regarde, « Pourquoi tu dis ça ?» Il dit « Ouais, c'est facile, t'écris des pensées du jour sur le top chrétien. » Et juste pour que vous compreniez, à cette époque-là, j'écrivais 3 pensées du jour sur le top chrétien. Une pensée du jour, c'est lue par 50 000 personnes. Et donc, 3 par semaine, c'est à peu près, c'est pas 150 000, mais c'est, on va dire, en commun, peut-être 80 000 personnes différentes. Donc, quand il me dit « Ouais, c'est facile pour toi, de toute façon, toi t'écris des pensées, puis voilà, ça fait vendre ton livre, c'est pour ça que ça marche bien. » Et quand il m'a dit ça, je suis d'origine sicilienne, la chaleur elle a commencé à monter comme ça, j'avais envie de lui sauter dessus, puis dans ma tête, juste dans ma tête hein, j'ai fait ça, mais j'ai essayé de me maîtriser et je me suis dit bon, soit cool, soit spirituel Patrice, et là je le regarde, ouais, parce que des moments je peux avoir tendance à être charnel, un peu comme vous, non, n'est-ce pas, et là je me dis reste cool Pat, je lui dis écoute, je vais t'expliquer quelque chose, tu sais, pour avoir un livre à écrire, pour avoir des choses à dire, il a fallu que j'aille un jour me former pour avoir un jour des choses à dire. Et donc, je donne un peu mon histoire. En 1999, c'est ça, j'ai un job, je gagne bien ma vie, Vraiment, je gagne bien ma vie, ma femme aussi. On est sur le point d'acheter une maison. Les prêts de la banque, les gens sont là, prêts à signer et acheter un immeuble avec 3 appartements qu'on allait louer. Waouh, ça roule. Je suis dans ma ville d'origine, papa, maman qui est là, mon frère, ma sœur, mes amis d'enfance. Enfin, tout est bien. Et là, on sent un appel de Dieu. Dieu nous parle de manière explicite, mais très explicite. Je me souviens un jour, je suis là avec mon épouse, on est là, on est en train de prier et jeûner parce que on sent une direction pour partir au Canada. On est en France, on sent une direction pour partir au Canada. Et là, il y a mon épouse et à ce moment-là, j'ai juste ma première fille, Estelle, qui a 1 an et demi. Et on est là ensemble et puis je dis au Seigneur, Seigneur, est-ce qu'il faut qu'on y aille ou pas? Et vraiment, je pose la question à Dieu. Je dis, Seigneur, je veux pas que ce soit quelqu'un d'autre qui me parle. Je veux même pas spécialement juste entendre une voix dans mon cœur parce que j'aurais peur que ce soit mes émotions. Je veux que tu me parles, mais que ça soit tellement explicite que je n'ai rien à dire. Je veux ouvrir, je veux jeûner, j'ai prié, puis je veux ouvrir ma Bible. D'habitude, j'ai une lecture de la Bible systématique, mais là, je veux ouvrir la Bible et je veux tellement que ça soit clair, que je puisse même pas discuter, que ce soit oui ou non, que je puisse discuter ton ordre. Et là, je prie avec ma femme, on prie en jeûne, puis on finit de prier. Et là, j'ouvre la Bible et je dis, Seigneur, dis-moi si on doit y aller ou pas. Là, il y a ma femme devant moi, il y a ma petite fille ici sur sa chaise haute. Et là, je tombe littéralement dessus le verset qui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va. Waouh. Ça, c'est un SMS du ciel, hein. C'est un texto du ciel, ça. Et en 3 mois, on part, mais on laisse tout tomber, on ne signe pas avec les banques. Et là, on se retrouve à partir, on n'avait pas beaucoup d'économies, on était des jeunes mariés. Donc, on fallait acheter les meubles et tout, donc on n'avait pas eu le temps d'économiser. Puis, on ne voulait pas tout vendre parce qu'on avait l'espérance, le désir un jour de revenir. Donc là, en fait, il faut partir. Et on a à ce moment-là, c'est en francs, je vous parle, en francs français, et on a à ce moment-là environ 25 000 francs. Ça fait quoi? Ça fait 6 000 euros. Et on a ça, et là, tu achètes, même pas, c'est 1 500, 3 000, ça fait même pas 4 000 euros, ça fait. Et là, on a juste 4 000 euros. Et donc, juste achète les billets d'avion, déjà, il t'en reste plus que deux. Hein. Il te reste plus que 2 000. Hein. Et là, on a une parole de Dieu. Ça ne s'échoue pas, une parole de Dieu. Surtout une parole de Dieu aussi claire que ça. Et là, on décide, on part. Et on va passer 3 années au Canada, où je vais passer ma licence en théologie. Et c'est génial, je suis à l'église Nouvelle Vie, ça se passe bien, mais on est dans la précarité. À tel point que pour être capable de se nourrir, on doit aller à la banque alimentaire. J'amène ma femme manger à la banque alimentaire parce qu'on n'a pas d'argent. Et Dieu a quand même pourvu, hein, qu'on s'entende bien, on a manqué de rien. Il y a eu des dons, au bout de 2 mois, on n'avait déjà plus d'argent. Mais on a eu des dons du Québec, des dons de la Suisse aussi, des dons de France, de Belgique. C'était juste incroyable. De partout, le Seigneur a agi. Ça a été juste glorieux, magnifique. Mais voilà, la réalité, c'était qu'on avait juste de quoi. Ok, et c'était ça, et j'amenais mon épouse à la banque alimentaire. Et puis à un moment donné, il y a ce désir d'un jour de revenir en France. Et là, il y a le pasteur Éric Sellerier qui vient me voir au Québec. Moi, je n'ai pas de réseau, je ne suis pas fils de pasteur, j'étais jeune chrétien, je n'ai pas de réseau chrétien. Et là, on a ce désir un jour de revenir en France et de travailler dans une église. Mais comment ça va se passer? Et là, un jour, je vois le pasteur Éric Sellerier arriver, le fondateur du Top Chrétien. Et il me dit, voilà, Patrice, il voulait me voir, il est au Québec. Et voilà, j'aimerais que tu rentres en France et que tu deviennes mon pasteur de jeunesse. Moi, dans mon cœur, waouh, génial, gloire à Dieu, quoi. Et là, il me regarde, par contre, il y a un petit, quand même, je tiens à te le préciser, on a besoin que tu travailles à temps plein pour l'église, mais on ne pourra pas te payer. Et là, tu es là, oh, ça fait déjà 3 ans que tu vas à la banque alimentaire. Et là, tu es là, oh, purée. Et puis dans ma tête, je prie. Et puis la finalité, j'avais dit, Seigneur, ouvre-moi une porte. Et c'est la seule porte qui s'ouvre. Donc je dis, écoute, je vais réfléchir. Et puis au bout de 3 secondes, bon, finalement, j'accepte. Il n'y a que ça. Et on rentre en France. Et encore pendant 2 ans sans salaire, on a des aides, des allocations françaises, etc. Ça s'appelle le RMI. C'est le minimum qui donne 450 euros par mois. Et en plus, on n'est plus juste 3. Nous, dans toute cette histoire, on a eu la bonne idée de faire 2 enfants supplémentaires. Et on se retrouve à 5. Et là, pendant... Mais gloire à Dieu, on n'a jamais manqué de rien. Mais vraiment. Mais on était dans une... Voilà, c'était la précarité. Et je me souviens, à un moment donné, le Top Chrétien, Eric perd les droits de Bob Gass qui écrivait Les Pensées du Jour. On perd les droits, puis là, il faut trouver quelqu'un qui écrit. Et là, Patrice, est-ce que tu peux écrire et tout? Et moi, il faut comprendre ceci. À la base, je ne sais pas écrire. Et quand je vous dis je ne sais pas écrire, quand j'étais à l'école biblique, j'aurais pu vous faire une photocopie et vous montrer ça. Moi, quand je rendais un travail majeur à l'école, au bout de 4 pages, les profs arrêtaient de compter les fautes. C'était 80 fautes en 4 pages. 20 fautes par page, une faute par ligne, c'était ça. Moi, j'étais tellement nul en français que je croyais qu'un COD, c'était un virus qui voulait attaquer ma phrase. Vous comprenez? Et là, il faut que j'écris. Alors, je commence à écrire. J'ai 30 ans à ce moment-là. Et là, je commence à apprendre à écrire et j'écris, j'apprends à écrire ma journée de repos qui était le lundi. Et à plus de 30 ans, j'apprends à écrire. J'envoie ça à Carole, qui est au Top Chrétien, qui s'occupe de la pensée du jour. Elle me renvoie, elle me corrige, elle m'explique comment écrire ceci, cela. Et pendant de 2004, ça arrive à 2004, je pars, je suis pasteur à Beaune en Bourgogne. Là, gloire à Dieu, je commence à avoir un petit salaire. Mais pendant 10 ans, de 2004 à 2014, toutes mes journées de repos, j'apprenais à écrire pour faire des pensées du jour pour le Top Chrétien. Et en 2014, j'écris mon premier livre, « Le meilleur est devant vous ». Et là, il y a un gars, attendez. Et là, il y a un gars qui connaît rien de mon histoire et qui vient voir et qui me dit « C'est facile pour toi ». Vous comprenez? Et là, tu as juste le goût de lui dire « Mais t'étais où, toi, quand moi, j'amenais ma femme manger dans une banque alimentaire? T'étais au resto avec la tienne? T'étais où, toi, quand moi, mes journées de repos, j'apprenais à écrire? T'étais sur une plage en train de te faire bronzer? » Vous comprenez? Il y a une chose que j'ai appris, c'est que tous les ministères que vous pouvez voir, même ceux qui vous plaisent et même ceux qui ne vous plaisent pas, qui ont de l'impact et de l'envergure, sachez ceci, ils ont tous payé le prix. Comprenez-vous? Donc même si ce n'est pas votre tasse de thé, respectez tous les ministères. Parce que au lieu de dire « Oh, j'aime pas ceci, cela », prenez l'instant, un instant, asseyez-vous à côté d'eux et raconte, dis « Raconte-moi ton histoire. Comment ça se fait que tu réussis? Il y a de l'impact comme ça. » Et là, vous allez écouter leur histoire et vous allez voir le prix qu'ils ont payé. Comprenez-vous? Donc, on veut être des leaders. On veut développer son don. On veut développer ce que Dieu nous a donné. Mais êtes-vous prêts à boire la coupe? Parce que pour développer l'appel que Dieu a sur votre vie, il y a une coupe à boire. Il y a un appel à payer, il y a un prix à payer. Et alors que vous allez le payer, alors que vous allez le développer, votre don va ouvrir la voie et va vous permettre d'avoir de l'impact. Amen. J'ai demandé, s'il te plaît, aux musiciens de revenir. Écoutez ceci, le but n'est pas de mourir, si tu peux mettre, voilà. Le but n'est pas de mourir vieux, mais vide. Combien réalisent que Jésus est mort à l'âge de 33 ans et que 33 ans, ce n'est pas vieux? On est d'accord pour dire que 33 ans, ce n'est pas vieux? Mais Jésus est mort vide. Comprenez-vous? Et le tombeau était vide. Tout ce qu'il avait à donner, il l'a donné. Vous savez, Jésus sur la croix, vous savez ce qu'il a dit? Combien il a fini? La dernière phrase qu'il a dit, « Tout est accompli ». Vous savez ce que ça veut dire, « Tout est accompli » ? Nous, souvent, on le spiritualise, et c'est bien, moi aussi, je le fais. On le spiritualise, on parle de la guérison, on parle de la délivrance, on parle du salut, on parle de tout ça. Mais vous savez ce que ça veut dire aussi, « Tout est accompli » ? Ça veut dire « Tout est accompli ». Ça veut dire que j'étais venu pour accomplir une mission, j'ai livré la marchandise. Comprenez-vous? J'ai donné et j'ai fait ce que j'étais appelé à faire et à donner sur cette terre. La mort n'aura rien de moi. J'ai guéri tous ceux que je devais guérir. J'ai délivré tous ceux que je devais délivrer. J'ai formé tous ceux que je devais former. Comprenez-vous? Lorsque l'apôtre Paul, quelque temps avant de mourir, va dire ceci, j'ai achevé la course. Le mot achevé la course, c'est le même mot que tout accompli de Jésus. En grec, c'est le mot tetelestai. Ça veut dire tout est accompli. L'apôtre Paul finit en disant, tout ce que je devais faire sur cette terre, je l'ai fait. L'apôtre Paul, ce n'est pas Jésus, il n'était pas parfait comme Jésus. Et on n'est pas parfait ici. Parfois, on va se planter, etc., etc. Mais ça, ce n'est pas grave. Mais Seigneur, je veux tout donner de mon vivant. Tout ce que je dois faire, toutes les églises que je dois implanter, tous les sites que je dois faire, tout ceci, cela, mon appel, tous les livres que je dois écrire, je veux tout donner de mon vivant. La mort ne doit rien avoir. Un jour, j'écoutais un vieux pasteur, 95 ans, dans une conférence pastorale. Et quand il a dit ça, vous auriez entendu les pasteurs, ça fait « Oh !» En fait, il est là, il a expliqué son parcours, tout ce qu'il avait fait. Il avait 95 ans, le monsieur. Et là, il arrive. Il arrive et il dit tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli. Et là, il arrive et il dit ceci, « La mort n'aura rien de moi. » Je me dis, quelle puissance que de dire ça. D'arriver à la fin de sa vie et de dire « La mort n'aura rien. » Tout ce que je devais livrer sur cette terre, je l'ai donné. Comprenez-vous? J'ai tout donné de mon vivant. Vous savez quel est l'endroit le plus riche de la ville? C'est le cimetière. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui vont mourir sans avoir donné leur trésor. Et ils vont prendre leur trésor et la finalité, c'est le tombeau qui va avoir le trésor. Il y a des gens qui meurent alors qu'ils avaient des destinées incroyables et ils ne les ont pas données, c'est le tombeau qui va l'avoir. Il y a des gens, ils étaient appelés à faire des sites d'évangélisation, des sites internet d'évangélisation. Ils ne l'ont jamais fait, c'est le tombeau qui va l'avoir. Il y en a, ils étaient appelés à écrire des livres, ils ne les ont jamais écrits, c'est le tombeau qui va l'avoir. Il y en a, ils étaient appelés à faire des poèmes, à faire des peintures pour la gloire de Dieu, d'autres à écrire toutes sortes d'actions, implanter des églises, implanter des entreprises qui allaient être des sources de bénédiction. Et ils ne l'ont pas fait parce qu'ils avaient peur de ceci ou de cela. Et à la fin, c'est le tombeau qui va l'avoir. J'espère que vous êtes avec moi. On veut que les tombeaux soient vides. On veut tout donner de notre vivant. Le but n'est pas de mourir vieux. Le but, c'est de mourir vide. Qu'on s'entende bien, je vous souhaite tous de vivre jusqu'à 100 ans. Et puis d'être sage. Parce que si c'est pour tout donner en 6 mois et après être terminé parce qu'on s'est cramé, c'est pas ça non plus. Mais d'avoir la sagesse et l'intelligence, d'avoir son plan d'action. Vous savez, la foi est un voyage. Vous le savez ça. Vous n'aurez pas tout réglé à la fin de ce week-end. Vous n'aurez pas tout réglé à la fin de ce week-end. La foi est un voyage. On en a encore des années devant nous, si le Seigneur n'est pas revenu et s'il nous prête vie. Et de dire, Seigneur, comment je peux, dans les 10, 15, 20, 30 ans devant moi, comment je peux faire pour développer ce que tu m'as donné, être le plus efficace possible, afin que mon tombeau n'ait rien. J'espère que vous êtes avec moi, mais j'espère, moi en tout cas, que le jour où je vais mourir et que mon cercueil va me voir arriver, en tout cas ma dépouille, j'espère qu'il va faire la tête. Purée, il m'apporte rien celui-là. Je veux tout donner de mon vivant. Je veux pouvoir dire comme l'apôtre Paul, j'ai achevé la course, j'ai tout donné, tétélestai, tout est livré. Maintenant la couronne de justice m'est réservée. Est-ce que vous désirez développer le don que Dieu vous a donné? Vous êtes des leaders, vous êtes les leaders de ce que Dieu vous a donné. Et notre rôle est d'en prendre soin et d'être des serviteurs pour la gloire de son nom. Est-ce qu'on peut se lever à notre place juste un instant? Juste là où nous sommes. J'ai appelé toute l'équipe. Ah, vous êtes là, super. J'aimerais juste que là où nous sommes, qu'on puisse étendre nos mains devant le roi des rois. Juste le dire, Seigneur, prends ma vie, Seigneur. Je te la livre, je te la donne. Prends ma vie, Seigneur, utilise-moi. Je veux être un instrument entre tes mains. Juste là où tu es, commence à prier en disant, Seigneur, je veux être un instrument pour toi. Je veux, Seigneur mon Dieu, tout te donner, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, je réalise que c'est pas une place que je veux. C'est pas un appel pour dominer sur les autres que je veux. Mais je réalise qu'il y a un appel qui est là et qui est sur ma vie. Et je veux développer le don que tu m'as donné. Je veux, Seigneur mon Dieu, par la gloire de ton nom, Seigneur, développer les dons, Seigneur, que tu m'as donné afin d'avoir un impact, pas pour la gloire de mon nom, mais pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Juste là où tu es, commence à prier, commence à dire, Seigneur, viens me remplir de ta présence, viens me remplir de ta gloire. Que Seigneur mon Dieu, le don que tu m'as donné, si je ne sais pas quel est ce don, je prie que tu me le révèles, Seigneur mon Dieu. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu me montres l'appel qu'il y a sur ma vie, que tu me montres ce que je suis appelé à faire, afin que je puisse avoir un impact pour la gloire de ton nom. Si tu sais quel est ton don, mais que ces derniers temps tu l'as enfoui, je prie, Seigneur mon Dieu, que ce soir tu prennes la décision de déterrer le don que tu as enfoui, afin de le faire restaurer, afin de le relever et de pouvoir le développer pour la gloire de Jésus. Et je prie pour tous ceux qui connaissent la réalité de leur don et qui aujourd'hui sont en train de le développer. Je prie que vous deveniez des sources d'inspiration, des modèles pour ceux qui sont autour de vous et que vous ayez toujours l'humilité de comprendre que le don qu'il vous a été donné ne vous a pas été donné pour fatiguer les autres, ne vous a pas été donné pour la gloire de votre nom, mais il vous a été donné pour la gloire que d'un seul nom, pour la gloire du nom de Jésus. Et qu'ensemble nous puissions dire, Seigneur, je réalise le don, l'appel que tu as mis sur ma vie. Et je prie mon Dieu et mon roi afin de développer ce que tu as mis dans ma vie. Alors que les têtes sont courbées, que les yeux sont fermés, j'aimerais faire un appel ce matin. Un appel extrêmement simple, ce soir. Un appel très simple. Si ce soir tu veux trouver ton don, tu veux une parole de Dieu, si ce soir tu veux ranimer le don de Dieu, si tu l'as éteint, l'apôtre Paul va un jour encourager son fils dans la foi, Timothée, ranime le don de Dieu que tu as reçu, ne le laisse pas éteint, il est précieux. Ranime ce don, si ce soir tu veux que nous prions pour toi, afin que ton don te soit ranimé, si ce soir tu désires simplement dire, Seigneur, je te donne tout, Seigneur, je te donne tout, Seigneur, afin que ce don puisse servir pour la gloire de ton nom. Juste là où tu es, je t'invite à lever la main. juste là où tu es, je t'invite à lever la main. Et demain, partout à travers ce lieu qui se lève, je t'invite à sortir des rangs et venez sur le devant. Approchez-vous sur le devant. Je demande les enfants, si vous pouvez juste vous reculer. Approchez-vous sur le devant. L'équipe de louange va nous conduire dans un chant, dans un temps de louange et d'adoration. Et approchez-vous sur le devant. Approchez-vous le plus près possible. Si t'as envie de te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si t'as envie d'être debout, mets-toi debout. Si t'as envie de t'asseoir, assis-toi. Peu importe, c'est pas grave. Ne bloquez pas les entrées, s'il vous plaît. Approchez-vous. Dès que vous êtes au bord de l'entrée, approchez-vous. Laissez tout le monde le temps de s'approcher. Et on va passer un temps. Approchez-vous sur le devant. Ne bloquez pas. Venez. Et on va passer un temps juste là où tu es. Et de dire, Seigneur, je te donne tout. Je te donne mon don ce soir. Je te donne mon talent ce soir. Ce don, c'est comme un petit arbre qui est à côté de moi. Je viens et je te l'apporte. C'est le rêve que j'ai pour toi, Seigneur. C'est mon rêve ce soir. Je te le donne, Seigneur, afin que tu le fasses fructifier. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Commencez juste là. S'il y a une équipe de prière, j'aimerais juste que l'équipe de prière, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais s'il y a une équipe de prière, de leaders, de pasteurs, qu'on puisse commencer à aller vers les gens, commencer à prier pour toutes les personnes qui se sont approchées. Et juste si vous avez une parole de Dieu, une prophétie, une parole de connaissance, que vous puissiez la donner aussi pour les gens qui se sont approchés. Et qu'on puisse commencer à prier et à demander au Seigneur qu'il vienne et qu'il agisse avec puissance. Alléluia. Prions pour les gens.